BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Ce soir, on va essayer de se pencher sur la Startup Nation. Est-ce que ça existe encore? Est-ce qu'elle est enterrée? On ne parle pas beaucoup de tech ou d'innovation, en tous les cas, pendant cette campagne législative. Et puis, surtout, est-ce qu'il y a des lignes rouges, en tous les cas? C'est la question que je vais poser dans un instant à Maya Noël, qui est directrice générale de France Digital. Bonsoir, Maya Noël.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous avez produit tout un document où vous dites, attention, voilà ce qui est dangereux pour nous, la question de l'immigration, on a besoin de nouveaux talents, la question des fonds d'investissement, la question aussi, bien sûr, de l'échelle européenne versus le protectionnisme souveraineté française. Donc, beaucoup de points. Juste d'abord, on va peut-être rappeler, la France Digital, c'est la première fédération de start-up en Europe.
Tout à fait.
C'est combien d'entreprises?
C'est plus de 2000 adhérents directs, donc des start-up, des scale-up et des fonds d'investissement, mais c'est aussi tout un réseau, un écosystème d'incubateurs, accélérateurs et autres associations sectorielles, ce qui nous permet d'avoir une vision exhaustive de près de 15 000 startups en France aujourd'hui.
Est-ce que ce soir, vous êtes quand même très inquiet, vous dites, ça y est, la Startup Nation, elle est enterrée, quoi. En tous les cas, c'est terminé.
Alors, j'irai pas aussi loin, je dis pas que c'est terminé. La Startup Nation, c'est un projet de très long terme, ça fait plus de 10 ans. On va dire, on a commencé à faire émerger cet écosystème d'entreprises innovantes. On a la chance en France et en Europe d'avoir un écosystème de talents assez formidable, des ingénieurs qui ne sont pas forcément que de la Startup Nation. Donc non, ce n'est pas terminé, mais effectivement, on commence à avoir un peu de plomb dans l'aile.
Du plomb dans l'aile,
c'est exactement ce que j'allais dire. Et ce n'est pas des inquiétudes aujourd'hui, c'est des faits, puisque depuis l'annonce de la dissolution, c'est déjà des recrutements qui étaient en cours et qui sont en train d'être stoppés parce qu'il y a des questions qui se posent. C'est énormément d'incertitudes sur des levées de fonds qui étaient elles aussi en cours et qui se voient être mises sur pause. Donc voilà, on se pose la question de ce qui va se passer après. Donc dès à présent, il y a une forme de ralentissement.
Est-ce que la forme de ralentissement, ça c'est important ce que vous dites, dans la création d'entreprise, il y en a beaucoup qui disent ben non, on va plutôt les créer ailleurs. Est-ce que vous observez déjà ce phénomène? Et en termes de levée de fonds, du coup, qu'est-ce qui se passe?
Exactement, il y a des levées de fonds sur pause, énormément de questionnements, des incertitudes sur ce qui va pouvoir se passer. Et c'est vrai que avoir des décisions radicales qui sont prises pour cet écosystème va peut-être chambouler toute la dynamique qui a été mise en place depuis plus de 10 ans. Ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas un écosystème qui est né hier, c'est un travail de très long terme et qui peut effectivement, je pense qu'il d'ailleurs a fait rayonner l'image de la France à l'international. Ça c'est très important, c'est la place qu'a réussi à se construire la France, mais ça repose beaucoup sur une image de marque qui du jour au lendemain quelque part peut être complètement chamboulée et tout ça.
Mais ça y est, c'est chamboulé.
C'est
parce que les macronistes tels triomphants de la Startup Nation, de toute manière, il reviendra jamais, quel que soit le résultat des élections.
On rebâtira différemment, encore mieux. Je pense que rien n'est arrêté, c'est juste qu'effectivement, l'accélération qu'on a prise va être stoppée. Pour autant, on est quand même sur un écosystème qui est résilient, il va falloir s'adapter. Mais pour s'adapter, il faut faire comprendre, comme vous le disiez précédemment, quelles sont les lignes rouges, qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'innovation puisse exister.
On va y revenir juste. Avant, il y a un point quand même qu'il faut rappeler, c'est que France Digital, notamment, cette Startup Nation, elle est née sur la fameuse affaire des pigeons avec Fleur Pellerin. Rappelez-nous, c'était du temps de François Hollande en 2013.
Tout à fait. C'était sur le sujet des plus-values de cession, donc la flat tax qu'on connaît, parce qu'il y avait des mécaniques fiscales qui n'étaient pas favorables à l'émergence d'entreprises innovantes et au financement à travers du capital risque. Encore une fois, on parle beaucoup de Startup Nation.
Il y a des grandes tribunes dans le monde pour dire il faut, on se barre. Quoi.
En fait, France Digital a été créée il y a plus de 12 ans aujourd'hui parce qu'effectivement, il y avait un enjeu de représenter la voix de ces entreprises qui, au final, restent des PME, mais ont des spécificités en termes de financement. C'est des entreprises qui nécessitent beaucoup d'argent, beaucoup de capitaux pour pouvoir soit développer de la R&D, soit pour pouvoir conquérir des parts de marché qui atteindre une échelle qui permette que le modèle économique soit viable. Ça, c'était quelque chose qu'il fallait faire comprendre. C'était notre travail depuis plus de 10 ans. Maintenant, notre travail a évolué. Et je pense que là, on était effectivement une centaine d'entrepreneurs, des pigeons un peu révoltés. En fait, aujourd'hui, l'innovation, les startups, c'est quoi? C'est tout un pan de l'économie. C'est plus d'un million d'emplois en France. Je pense qu'il faut peut-être aussi arrêter de parler de Startup Nation et simplement de se dire, aujourd'hui, la France est un pays d'innovation, avec des talents, avec des belles entreprises qui ont la possibilité de grandir à l'international, qui aujourd'hui s'en donnent les moyens et qui sont dans cette phase d'accélération. Et il faut passer à cette étape-là de notre histoire. Peut-être la fin de la Startup Nation, mais pas la fin d'une entreprise, d'un pays et d'un continent qui est l'Europe, une Europe de l'innovation.
Oui, si on regarde un petit peu en arrière rapidement, justement, ça nous, comme ça, après on regardera les mesures annoncées qui vous font peur. Là, on va rester peut-être sur les mesures qui ont été faites et on les liste un peu. Qu'est-ce qui a été important? Le financement de l'amorçage, ça c'était un point important. Quels ont été les trois quatre points clés pour créer cet écosystème favorable?
Je dis souvent, cet écosystème, il repose sur trois ingrédients clés. À la fois, effectivement, les financements, donc la capacité à flécher de l'argent vers l'innovation et être capable d'attirer des capitaux étrangers. Mmh. Il faut savoir aussi attirer des talents. Deuxième point, les talents sont très importants et c'est souvent le premier frein à la croissance exposée par nos entreprises, dont elles sont capables de former, mais aussi de retenir et d'attirer. Retenir, c'est important et c'est aussi une belle évolution depuis les 12 dernières années. Ouais. C'est cette fuite des cerveaux qu'on voyait souvent partir de l'autre côté de l'Atlantique qui aujourd'hui font le choix d'entreprendre, voire de revenir en France et être capable aussi d'attirer d'autres profils internationaux. Troisième point, c'est la capacité à ouvrir de nouveaux marchés, de sortir justement de l'échelle française qui est souvent trop petite et encore, elle n'est pas terminée. Il y a encore des enjeux de commandes publiques, d'être capacité à contractualiser avec des grands groupes français, mais on a besoin de s'internationaliser. Et ça, c'est une évolution. Aujourd'hui, on voit la mentalité d'un entrepreneur qui lance sa start-up en France et tout de suite tourner vers l'international et ça marche.
Ouais. Alors, si on regarde les fameuses lignes rouges, parce que vous avez passé au crible tous les programmes... Oui. Et donc, vous avez retenu les points clés, enfin, ceux qui vous paraissent un peu inquiétants, pour ne pas dire très inquiétants, pour la suite des événements. Le rejet des investissements étrangers. Vous dites, nous sommes très vigilants sur les propositions qui visent à accroître le contrôle sur les investissements étrangers en France. En même temps, pas si mal que ça quand même, non? Parce que lorsque vous voyez le nombre de start-up ou même de scale-up qui sont rachetés par des étrangers, ça peut être pas mal qu'elles se développent en France, non?
Alors, le meilleur argent, ça reste celui du client. Donc oui, je suis pour que les entreprises françaises se développent en France, mais aussi en Europe, qu'on achète auprès de ces entreprises. Ça, c'est certain. Néanmoins,
mais un client, est-ce qu'il ne doit pas être français un peu quand même?
Non, on peut avoir des clients à l'international. Mmh. L'enjeu, c'est de réussir à créer une forme d'interdépendance que nous, on puisse acheter étrangers, mais que les étrangers aussi achètent français. Ce que je veux dire par rapport au financement, puisque c'est la question, c'est que je pense qu'il ne faut pas avoir une vision manichéenne des choses. En fait, on a besoin de gros montants pour pouvoir développer certaines innovations de rupture.
On n'a pas beaucoup chez nous, c'est sûr.
Il nous manque de l'argent. Et donc, quand il nous manque de l'argent, on va le chercher. Après, tout l'argent qui sera investi, c'est l'argent qui peut aussi rester dans ce circuit français. Attirer des capitaux étrangers, c'est aussi le moyen d'avoir des capitaux qui un jour deviennent français. Donc oui, quand on n'a pas d'argent en France, il faut aller le chercher ailleurs.
Mais ça, c'est ce qui vous fait... le contrôle des investissements étrangers, c'est quelque chose qui vous fait peur parce que ça va freiner justement l'entrée de capitaux en France?
Tout à fait. Si on ne peut pas investir en France, ça va freiner l'entrée de capitaux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a un enjeu d'échelle. Aujourd'hui, quand on investit 100 millions d'euros en France ou en Europe, c'est des milliards qui sont investis aux États-Unis ou en Chine, on est des tout petits acteurs. Donc il faut réussir à se fédérer. L'échelle d'ailleurs n'est pas l'échelle française, je pense qu'il faut viser à l'échelle européenne. D'ailleurs, nous, notre objectif, c'est de créer des champions d'innovation européens parce que c'est la bonne échelle, c'est un marché de 400 millions d'habitants. C'est là où
et en même temps, c'est l'Europe qui freine. Mais ça, on y reviendra dans un instant. On continue avec cette liste de ce qui vous inquiète dans les programmes. Sur l'immigration, qui est quand même un des points clés du programme du Rassemblement National, vous dites, attention, les start-up, les entreprises de la tech, elles ont besoin de talents, elles ont besoin d'immigration.
Tout à fait. Aujourd'hui,
il y a plein d'ingénieurs
chez nous. Une start-up sur cinq qui recrute à travers le visa French Tech.
Combien, pardon ?
Une start-up sur cinq qui recrute à travers le visa French Tech. Et ce visa, c'est quoi ? Ça permet de recruter des profils qui viennent d'en dehors de l'Europe. C'est des profils d'ingénieurs, pas que. C'est aussi des profils qui vont nous permettre de nous étendre à l'international. On a besoin d'avoir, quelque part, une population cosmopolite si on veut véritablement pouvoir créer des entreprises internationales. Donc oui, on a besoin de recruter ces talents, c'est primordial. C'est un dispositif auquel beaucoup de start-up font appel aujourd'hui et continuent faire appel.
Il y a combien, par exemple, de recrutements d'étrangers?
Alors, je n'ai pas le pourcentage d'étrangers.
Non, mais le nombre. Il y a eu 15 000, 10 000, j'en sais rien.
Je n'ai pas les chiffres exacts, je pourrais essayer de vous les trouver, mais ce qui est certain, c'est que les startups ont créé 1 million d'emplois en France et qu'une sur cinq recrute des profils étrangers. Le principe, ce n'est pas la quantité de profils, c'est que c'est des profils, en tout cas, ciblés, dont on a besoin. Il ne faut pas se fermer la porte. Et au-delà de ça, ouvrir la porte à l'international, c'est effectivement recruter des salariés, mais c'est aussi la capacité de promouvoir l'image de la France à l'étranger et de facto de trouver des clients à l'étranger.
Est-ce que là déjà, vous voyez des réticences de certains à venir en France ? Déjà, vous avez des remontées ?
Ce que je vous dis, c'est que c'est factuel aujourd'hui. Des recrutements qui sont en cours sont en suspens parce que les étrangers en question qui se posent la question de venir en France se disent « Est-ce que je serai bien accueilli ?»
Et l'autre point qui vous fait peur, évidemment, parce qu'on parle beaucoup de souveraineté, de défense des intérêts français, vous quand même, j'ai noté ce que vous disiez là, lorsqu'on parle des investissements étrangers, Maya Noël, vous ne voudriez pas qu'il y a trop d'entreprises qui sont rachetées par des étrangers en France ?
Encore une fois, je pense qu'il ne faut pas avoir une vision trop manichéenne des choses. Je pense qu'effectivement, il y a des entreprises qui sont stratégiques.
Oui, mais comme vous voyez que Munch, à la limite, c'est sa société, elle est déjà à hauteur de 44% avec des capitaux étrangers, enfin américains. Donc c'est un peu dommage.
Alors, alors ça, c'est un exemple intéressant, le cas de l'IA. Oui, il y a beaucoup de capitaux étrangers. Ce qui est intéressant tout de même, c'est que l'équipe de direction aujourd'hui est française et que c'est des technologies qui sont développées en France. Et voilà, si pour l'instant on n'a pas les moyens de pouvoir se financer uniquement avec des capitaux venant d'Europe ou de France, on va aller chercher à l'étranger, c'est comme ça. Mais je pense qu'il faut quelque part avoir une vision plus long terme. Encore une fois, on est quand même aujourd'hui capable de lever des centaines de millions d'euros en France, ce qui était impossible il y a 10 ans. Mmh. Il y a 10 ans, lever 10 millions, c'était déjà énorme. Oui. Donc on est aujourd'hui capable, en restant en France et sans partir à l'étranger...
Il nous reste quand même une sacrée marche à franchir, hein, quand même.
Oui, mais l'accélération a démarré, il y a eu énormément progressé en 10 ans. Rien ne nous empêche de continuer dans cette direction et d'accélérer le rythme sur les prochaines années. Encore faut-il avoir des dirigeants politiques qui qui parlent d'innovation.
Oui, mais ça c'est sûr que... Si, j'ai même posé la question lorsque j'ai passé le grand oral sur leur programme économique à tous les candidats ou les chefs de parti ou de coalition. C'est sûr qu'on ne parle absolument pas d'IA. Il y a juste sur le crédit impôt recherche, ça c'est un point important. Mais c'est vrai que ça coûte 5 milliards. On cherche à tous à faire des économies. Le Rassemblement national, a priori, disait qu'il n'y touchait pas. Il y a quand même la question aussi de la part du Nouveau Front Populaire qui disait quand même il y a trop de personnes, il y a trop d'entreprises qui le touchent. C'est sûr que la Poste n'a pas besoin forcément du crédit impôt recherche.
Ce qui est certain aujourd'hui, c'est comme vous le dites, c'est qu'on ne parle pas suffisamment d'innovation. Nous, on fait ce travail de pédagogie, c'est le rôle de France Digital, c'est pour ça qu'on est là.
C'est pour ça que vous êtes là,
Maya Noël. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour expliquer en fait que oui, l'équation est complexe quand on prend la direction d'un pays, mais l'innovation fait partie de cette équation et il ne faut pas l'oublier. Parce que c'est intimement corrélé avec l'économie du pays, c'est intimement corrélé aussi avec le réchauffement climatique et tout ça rentre en jeu. Donc nous, notre rôle, et d'ailleurs c'est ce qu'on a fait beaucoup durant les élections européennes, c'est de rencontrer chacun des partis. On a rencontré toutes les têtes de liste de toutes les listes européennes pour leur expliquer ce qu'était l'innovation.
Ouais. Je pense quand même... Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, si vous les avez rencontrés, vous, directement, en one-to-one, qu'est-ce qu'ils vous ont dit ?
Je pense que si vous prenez le cas d'un Raphaël Glucksmann, par exemple, qui était un de nos derniers entretiens, je pense qu'ils ont compris sa nécessité d'avoir cette twin transition entre l'innovation, l'environnement, et ce, à l'échelle européenne. Mmh. Donc, il y a des politiques d'innovation qui, quand même, ont été comprises, et qui sont d'ailleurs comprises dans tous les bords, mais il y a des choses parfois
qui... Oui, mais j'ai envie de dire, vous avez vu Glucksmann, vous n'avez pas vu Mélenchon.
Si, bien sûr qu'on a rencontré...
Mélenchon.
Alors, pas Mélenchon en direct, mais on a rencontré d'autres personnes de son parti, et il y a des sujets qui sont pris en compte après, avec, différents degrés de compréhension, avec différentes volontés d'aller dans cette direction-là. Néanmoins, ça reste quand même... L'innovation reste la grande oubliée des débats, alors que c'est primordial par rapport à la concurrence à laquelle on fait face aux États-Unis et face à la Chine, et face quelque part, on parle beaucoup de souveraineté, mais une autonomie stratégique, elle repose aussi sur l'innovation.
Alors, c'est clair, lorsqu'on parle beaucoup du décrochage entre la France et l'Europe et les États-Unis, c'est notamment parce que le décrochage en termes d'innovation, c'est ça qui fait qu'il y a une augmentation de la productivité aux États-Unis qui est nettement supérieure à la nôtre, qui est justement un peu en train de décliner. Et puis, enfin, vous insistez sur la dimension européenne dans votre réquisitoire de France Digital. Vous dites la seule échelle viable pour nos entreprises françaises est l'échelle européenne. Oui, en même temps, il y en a beaucoup qui vous disent, y compris au sein de France Digital, c'est l'Europe qui freine, qui est déjà en train de réguler sur l'intelligence artificielle, par exemple, alors que tout devrait exploser en ce moment, et donc la régulation est en train de tuer l'intelligence artificielle. Donc le niveau européen, il n'est pas bon. Vous répondez quoi ?
Moi, ce que je réponds, c'est que si on regarde les 5 dernières années, effectivement, en Europe... Quelque part, l'Europe est devenue la puissance régulatoire au niveau des technologies.
Ah, ça c'est sûr, oui.
Alors oui, c'est pas suffisant. Néanmoins, c'est déjà une forme de compréhension des enjeux auxquels on fait face. Et c'est déjà une manière d'entrer sur le bord du terrain.
Ben oui, mais ça casse l'élan.
ça casse les
dents. Après, il y en a plein qui disent ça. Le patron de Miracle, il y en a Philippe Corot, il y en a plein qui disent ça.
Je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, le travail de France Digital, parce qu'on a aussi un bureau à Bruxelles, c'était d'éviter au maximum beaucoup d'effets de bord, des différentes régulations. On a, je pense, évité certains effets de bord. Maintenant, c'est peut-être pas suffisant. Et l'objectif des 5 prochaines années, c'est effectivement de passer de cette puissance de régulation à une puissance d'innovation. Mais le fait de commencer à réguler, c'est déjà un moyen de démontrer qu'on est plus si naïf et qu'on a compris les enjeux auxquels on faisait face.
C'est-à-dire de réguler avant même de développer l'innovation, c'est quand même, c'est un peu bizarre, non? Enfin, c'est vraiment les Européens, quoi.
Oui, mais encore une fois, je pense que la dynamique était plutôt positive et le but, c'est de pas la casser en se repliant sur nous-mêmes et en n'agissant plus comme étant avec une certaine forme de leadership qu'a la France au niveau de l'Europe.
Je pense qu'il faut continuer. Mais pour vous, la souveraineté, le protectionnisme, ça veut rien dire. Dans votre domaine à vous, dans le domaine de France Digital, votre
Bien sûr, moi je préfère parler d'autonomie stratégique et je suis complètement d'accord que l'enjeu de souveraineté est fort et qu'il faut savoir investir massivement sur des chantiers stratégiques. Je pense qu'aujourd'hui, on a encore la possibilité de rester dans la course sur l'intelligence artificielle. On a encore la possibilité de devenir leader sur le quantique. Il faut investir massivement. Et c'est ce que d'ailleurs on préconisait. Dans le manifeste qu'on a fait pour les élections européennes, on a effectivement critiquer en même temps, d'une certaine manière, saluer certaines régulations qui ont été mises en place parce qu'elles allaient dans le bon sens. L'objectif, c'était d'accélérer. Et donc, il faut qu'on reste dans cette dynamique-là de... L'Europe a compris que les priorités pour les 5 prochaines années, c'était la double transition à la fois technologique et environnementale.
Oui, là, si vous aviez... D'abord, est-ce qu'il y a un programme qui vous paraît plus dangereux que l'autre ?
C'est compliqué de me positionner parce que je pense d'ailleurs que ce n'est pas mon rôle. Enfin, France Digital a beau être une association qui discute avec des politiques, on n'est pas partisans. Donc ce n'est pas à moi, ce n'est pas mon rôle en tant que directrice de France Digital de donner des consignes de vote. Les lignes rouges, on en a parlé. Sur notre site, on a fait le travail d'aller étudier différents programmes avec un outil qui vous permet de poser toutes les questions que vous souhaitez pour essayer de vous prendre vos décisions en tant que citoyen. Maintenant, on ne va pas rentrer sur le débat des valeurs.
Un cloud, est-ce que un cloud au niveau européen, c'est important? Il faut vraiment un cloud au niveau français, parce que la souveraineté passe par là, en termes de collecte de données.
Je pense qu'aujourd'hui, rêver à un cloud français, c'est très compliqué. Il y a des acteurs, il y a des cloud providers aujourd'hui qui sont français, mais on a un peu raté le virage. Je pense que ce qu'il faut viser, c'est le multi-cloud, être capable de dire, oui, il y a des données qu'on doit stocker de manière un peu stratégique sur des cloud providers français, et d'autres, on peut utiliser d'autres serveurs.
Merci beaucoup Maya Noël. Donc vous pouvez retrouver toutes les propositions, c'est très bien fait sur votre site effectivement. Vos propositions, plutôt les lignes rouges. Moi c'est ça que j'ai retenu vis-à-vis de ces élections législatives. Merci Maya Noël. Donc elle était notre invitée, la directrice générale de France Digital.